Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. Bertrand Lacroix a tout d'abord travaillé pour de grands groupes internationaux dans les domaines du conseil et de la gestion de projet. Si l'investissement immobilier à l'étranger peut effrayer au premier abord, cela n'a pas été le cas de Bertrand qui a trouvé en cette solution non seulement une rentabilité nette supérieure à 8%, mais également de nombreux avantages. Aujourd'hui gérant de l'agence immobilière Immo IPS, basée à Nouméa, il nous raconte l'histoire de ses premiers investissements immobiliers aux États-Unis et comment il s'est par la suite professionnalisé. Bertrand nous explique sa stratégie d'investissement relativement méconnue en francophonie et nous délivre ses conseils tout au long de l'épisode. Sans plus attendre, laissons place à Bertrand Lacroix. Bertrand Lacroix, merci beaucoup pour ton accueil au sein de l'agence Immo IPS Nouvelle-Calédonie. Je suis très très heureux de pouvoir t'interviewer pour ce podcast. Merci pour ton temps, le temps que tu peux nous consacrer. Tu as un parcours très très riche, on en a déjà un peu discuté. Donc cette agence Immo IPS a été créée à l'origine par Élie Mougel, qui est le fondateur du groupe Mougel, qui intègre cette agence. Et vous êtes associé il y a quelques années pour développer une agence locale à Nouméa. Et toi, tu as un parcours assez intéressant parce que tu as fait énormément de choses. Tu as travaillé pour le compte de grandes sociétés dans le domaine du conseil, de l'organisation, de la gestion, en Europe, en Australie et depuis quelques années en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené finalement à être aujourd'hui dans ce métier de l'immobilier ?
Bonjour. Donc, mon parcours, en fait, est un parcours plutôt dans la gestion de projet. Je suis quelqu'un qui aime les projets, qui aime commencer quelque chose à 1.0 et le livrer et puis passer après à autre chose. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'opération. Donc, j'aime tout ce qui donne la possibilité, en fait, de construire, de participer à la construction de quelque chose. Donc, j'ai une formation, en fait, j'ai fait une école de commerce parisienne. Après, en fait, je suis rentré dans un cabinet de conseil qui s'appelle PricewaterhouseCoopers pour faire du conseil à l'échelle européenne dans des grands groupes qui avaient la nécessité, en fait, de se restructurer pour être plus performants, notamment avec l'utilisation de systèmes d'information qui permettaient de rendre plus cohérent, en fait, le traitement des process dans le groupe. Après, j'ai quitté l'Europe pour m'installer en Australie pour travailler, en fait, dans une même type de structure qui s'appelle Deloitte.
D'accord.
Et puis, donc là, j'avais vraiment une casquette de chef de projet sur des projets de grande ampleur. Et puis, j'ai été recruté par la Nouvelle-Calédonie, en fait, par Goro Nickel, donc l'usine du Sud, pour permettre de mettre en place, en fait, les systèmes d'information de la future usine. Donc c'est avec mon expérience de chef de projet qui a fait que je sois recruté. J'ai commencé, en fait, en Australie et après, en fait, je me suis installé en Nouvelle-Calédonie.
D'accord. Finalement, ton métier à la base touche vraiment l'organisation des entreprises, leur fonctionnement. Et toi, tu leur aidais, en fait, à y voir plus clair là-dedans et pour être plus performant, plus productif.
C'est exactement ça. Et ça servait pour des entreprises qui étaient déjà en place. Donc c'est principalement ce que j'ai fait en Europe. Et c'était très enthousiasmant, en fait, de le faire pour l'usine du Sud, parce que là, en fait, c'était vraiment à partir de rien du tout, de construire, en fait, l'ensemble d'une organisation. Et c'était donc dans la continuité de ce que j'avais fait, mais d'une façon un petit peu plus innovante, dans le sens où on partait de rien, qu'il fallait construire, en fait, une grosse usine de plusieurs milliards de dollars. C'était vraiment intéressant.
Alors, j'ai envie de dire, mais où est l'immobilier dans cette histoire? Et effectivement, c'est ça qui est intéressant. Tu vas nous raconter un peu comment t'es arrivé à être orienté vers le monde de l'immobilier, puisque finalement, c'était assez éloigné à la base.
Oui, ça. Bonne question. Bon, déjà, c'est dans la finance, donc c'est quand même ma formation, en fait, de base, la finance. En fait, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours épargné, mis mon argent, en fait, de façon régulière dans des assurances-vie. Et au bout d'un moment, j'étais quand même un peu désespéré de voir que la rentabilité de ces placements était vraiment pas à la hauteur de ce dont j'avais besoin pour pouvoir assurer une retraite, sachant que comme j'avais travaillé en Europe, en Australie, en Nouvelle-Calédonie et probablement ailleurs demain, j'aurais pas la possibilité en fait de toucher des retraites décentes. Donc c'était à moi de constituer mon patrimoine et les assurances vie clairement ne me permettaient pas en fait d'envisager la possibilité d'être autonome financièrement. Donc il m'était nécessaire en fait de trouver de nouvelles options. Et depuis longtemps, je réfléchissais en fait à l'immobilier. Mais le ticket d'entrée dans l'immobilier est toujours un petit peu élevé. Et là, en fait, j'ai trouvé avec Élie Mougel et son groupe IPS la possibilité de commencer à acheter de l'immobilier à partir, à l'époque, c'était 6 millions de francs CFP.
D'accord.
Pour avoir un appartement de 80 mètres carrés et une rentabilité de 8% avec une garantie des loyers sur 5 ans. Donc, les conditions absolument idéales pour investir dans l'immobilier.
D'accord. Avec un petit peu de cash. Alors, pour recadrer, expliquer un peu aux auditeurs, donc, s'il y a à peu près 5-6 ans, tu rencontres Élie Mougel.
C'est ça.
À ce moment-là, tu disais que tu avais une amie qui peut-être.
En fait, donc, j'étais en réflexion de pouvoir sortir en fait de mes assurances vie. Et j'ai rencontré une amie qui avait investi en fait. Aux États-Unis avec le groupe IPS.
Et ce groupe donc propose à des personnes étrangères finalement, hein, qui n'ont pas la résidence ni la nationalité américaine, d'investir aux États-Unis.
C'est ça. Donc c'est le principe IPS, ça veut dire International Property Services. Donc l'idée c'est d'investir dans des propriétés à l'international avec un service complet qui fait que c'est un produit financier.
D'accord.
Mais basé en fait sur l'immobilier. Et donc, Élie Mougel s'était déjà installé en fait en Nouvelle-Calédonie. Une de mes amies en fait avait acheté un appartement à Phoenix par son biais, était allée aux États-Unis à Phoenix pour voir en fait son bien.
Ouais, d'accord. Était se rendre compte et puis visiter également le bien qu'elle avait acheté du coup.
Voilà, exactement. Et donc en fait, elle est revenue en me disant voilà, j'ai fait un bon coup. Et donc pour moi, c'était l'occasion en fait de passer le cap.
D'accord.
Ça correspondait à mon budget, donc j'ai commencé en fait à investir comme ça.
Ok, du coup, tu achètes ton premier appartement aux États-Unis via ce réseau Immo IPS, qui n'est pas encore Immo IPS peut-être à l'époque.
Non, c'était IPSNC.
Et donc, en fait, c'est comme ça que tu as pu mettre un premier pied finalement dans le monde de l'immobilier, de l'investissement immobilier, et te rapporter. Bah, tu peux nous raconter un peu les chiffres qui t'ont fait toi passer ce cap.
Le concept, en fait, donc moi j'en avais assez des assurances vie et de ces méga structures en fait qui promettent un petit peu plus que ce qu'elles délivrent vraiment. Et puis surtout avec des taux qui ne sont pas en capacité de financer une retraite. À la fin du compte, c'est vraiment ça le fond du problème, quoi.
Ouais.
C'est d'avoir en fait un rapport financier qui permet d'être financièrement autonome le jour où tu veux t'arrêter de travailler. Et là en fait le concept est simple. À partir de, à l'époque c'était 6 millions de francs CFP, tu pouvais acquérir un appartement de 80 à 100 mètres carrés avec la garantie d'avoir les paiements des loyers pendant 5 ans et pour une rentabilité nette de toute charge de 8%.
Voilà. Ouais, ce qui est quand même assez incroyable. Finalement, même à l'époque, c'était encore plus incroyable puisque les prix étaient moins chers encore qu'aujourd'hui.
En fait, c'est le delta du... En fait, grâce à la crise de 2008, l'immobilier en fait, aux États-Unis s'est effondré. Alors que, enfin, le prix d'achat de l'immobilier s'est effondré, alors que le prix du locatif, c'est pas effondré du tout. Les loueurs, enfin, les gens qui louaient des appartements étaient toujours dans leurs appartements. Donc, quand il y a des crises immobilières, c'est surtout, en fait, les prix d'achat qui s'effondrent, mais pas les prix de la locatif. Et aux États-Unis, on a vu effectivement le prix d'achat s'effondrer. Et donc, en fait, quand on achetait des appartements, en fait, à cette époque, c'est ce qui donnait en fait une rentabilité aussi élevée. C'est le ratio entre le montant de l'investissement et ce que te rapporte en fait à la fin de l'année le total net de ce que tu
tout à fait. Et quand tu parles du net, c'est-à-dire que tout frais de gestion compris.
C'est ça. Hein? La maintenance, les impôts, les taxes foncières, les frais de syndic, la gestion, la délégation de la gestion de l'appartement à l'IPS, tout ça.
Effectivement, si je prends l'exemple de Nouméa, une rentabilité nette à 8% avec ce niveau de prise en charge, c'est extrêmement difficile à trouver, je dirais, même aujourd'hui. C'est un peu votre carte de visite aussi ou...
Ouais, conceptuellement, si tu regardes la façon dont la défiscalisation en fait est construite,
ouais.
À la fin du compte, elle devrait donner ces chiffres-là. Le problème, c'est que tu as zéro garantie d'avoir un locataire qui soit là de façon permanente pendant toute la période de défiscalisation.
Chose qui garantit du coup avec le système que vous proposez à Phoenix.
Voilà. Donc là, en fait, on a une véritable assurance. C'est pour ça que ça ressemble à un produit financier beaucoup plus qu'à un investissement dans l'immobilier, parce que en fait, le montant des loyers est garanti en fait d'être payé sur les 5 ans. Et ça, c'est super, super confortable. Après, en fait, il y a un autre paramètre qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on est dans une économie où aujourd'hui on a 7 milliards d'habitants, demain on sera 9 milliards d'habitants. Donc investir dans la nourriture ou investir en fait dans l'immobilier sont deux valeurs sûres qui, de toute façon, contrairement à la finance qui est beaucoup plus fluctuante, est un peu beaucoup plus tangible, quoi.
Et ouais, mais oui, ça a tendance à être en croissance finalement permanente, puis il y a un besoin qui va en augmentant avec la population qui augmente.
Exactement. Ouais. Exactement.
Et effectivement, et ça finalement c'est à l'échelle mondiale.
Voilà, et c'est une logique très mathématique, hein. C'est pas la peine d'être un scientifique ou un grand financier pour réaliser ça, quoi.
Eh ben, écoute, ben nous voilà un peu embarqués du coup dans l'immobilier, et donc ça a créé un peu chez toi un déclic, je dirais. Cette opportunité, qu'est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, et qu'est-ce qui t'a permis finalement de te professionnaliser
Alors en fait, au bout d'un an d'avoir fait cet investissement, j'ai réalisé que ce qui m'avait été vendu et ce que j'avais en fait était totalement cohérent. Donc la confiance était établie avec ce type d'investissement. Et donc j'avais quitté Valais à cette époque-là. J'avais commencé d'autres activités en tant que chef de projet indépendant, et puis j'ai créé en fait d'autres activités, et j'ai proposé en fait à Élie de venir apporteur d'affaires et d'utiliser mon portefeuille de réseau pour pouvoir aussi accompagner le développement de ces investissements que je trouvais judicieux.
Finalement, c'était lui apporter des clients,
c'est ça.
Peut-être qui manquaient au départ. En tout cas, lui faire une croissance dans ce sens.
Lui apporter des nouveaux clients et me rémunérer en fait sur la part de ces nouveaux clients. Et en fait, donc du coup, je suis allé à Phoenix pour réaliser comment cette organisation était structurée. Et là, j'ai découvert en fait une organisation à l'américaine avec une organisation bien structurée, gens qui sont compétents, qui sont engagés en fait dans ce qu'ils font, avec une palette de services extrêmement variée pour pouvoir en fait assurer le back-office de ces produits financiers. Donc il faut entretenir des relations avec les banquiers, avec les assureurs, avec les services comptables, les services fiscaux, avec des activités de maintenance, de restauration d'appartements, de syndic. Donc tout ça en fait sont des métiers que l'IPS en fait couvre en back-office pour pouvoir permettre de rendre en fait ces appartements financièrement rentables.
D'accord. Donc tous ces métiers sont intégrés dans la structure.
Absolument.
Avec les compétences.
C'est ça. Donc il y a plus de 60 personnes en fait à Phoenix qui gèrent en fait l'ensemble de ces métiers pour les investisseurs.
Ok. Et du coup tu découvres ça là-bas.
Donc moi j'ai mieux compris en fait quel était le potentiel de la ville de Phoenix, donc une ville absolument extraordinaire de presque 6 millions d'habitants dans un état qui n'en a que 7, donc en fait tout le monde en fait est concentré sur la ville.
Très bien. Tu peux nous situer un peu ce trouve Phoenix aux États-Unis.
L'Arizona en fait se trouve à l'est de la Californie et elle touche le Colorado, le Nevada, la Californie, le Mexique et le Nouveau-Mexique. La capitale en fait c'est Phoenix. L'activité économique de cette région est principalement initialement agricole et minière, donc la plus grosse mine de cuivre d'Amérique du Nord qui se trouve là-bas. Progressivement en fait pour attirer plus de pour attirer la croissance économique, le gouvernement en fait a réduit les taxes et du coup en fait ça a créé un appel d'air pour les gens qui habitent en Californie où le prix du travail est cher, le prix de l'immobilier est cher.
D'accord.
Et donc en fait il y a beaucoup de start-up qui quittent progressivement la Californie pour s'installer en Arizona et avec des conditions en fait d'installation et des conditions fiscales qui sont très attractives. Donc là, en fait, l'année dernière, il y a eu 44 000 jobs qui ont été créés sur la ville de Phoenix, donc une ville de moins de 6 millions d'habitants. Donc forcément, ça crée en fait une énorme pression sur l'immobilier. Et ça assure en fait l'utilisation de la location des appartements.
Oui, effectivement. Et donc tu découvres toute cette organisation, ça finalement te conforte un peu dans tes choix.
C'est ça. Donc du coup en fait je suis rentré en me disant bon maintenant j'ai compris le concept et je suis capable de le vendre puisque je le connais et j'ai utilisé mon portefeuille pour apporter en fait des clients et progressivement en fait la relation avec Eli en fait s'est construite. On a vu un petit peu plus loin que ces visions à court terme. Et donc, on a décidé de s'associer pour créer en fait Immo IPS en Nouvelle-Calédonie, qui serait en fait une société qui continuerait à faire de l'immobilier aux États-Unis, à faire de l'immobilier en Calédonie, et commencer en fait à concevoir la possibilité de développer le marché néo-zélandais pour les clients calédoniens.
D'accord.
Voilà. Et à l'époque, il y avait déjà en fait une filiale qui était installée en Australie et en Espagne.
D'accord. Donc voilà, créer cette agence. Vous êtes associé. Toi, tu gères aussi l'agence.
C'est ça. Donc moi, je suis le contenu de ma formation. En fait, je suis en fait le gérant puisqu'en fait il faut un certain nombre de critères en termes de formation pour pouvoir avoir une carte d'agent immobilier.
D'accord.
Et ma formation en fait, notamment avec la dimension juridique m'a permis en fait d'avoir cette carte. Et donc je me suis associé avec Eli en étant le gérant et aussi en fait en nous projetant pour pouvoir développer nos activités plus largement.
D'accord. Et finalement aujourd'hui l'activité consiste, comme tu dis, poursuivre cette activité de proposer aux Calédoniens d'investir aux États-Unis via ce système. Et également sur des produits, de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie.
C'est ça. Donc on continue en fait à développer les États-Unis. On a développé en fait le marché calédonien, donc sur la partie transactionnelle, donc achat-vente en Nouvelle-Calédonie. On accompagne aussi nos investisseurs dans la défiscalisation locale. Donc c'est toujours dans cette notion d'accompagnement pour une certaine forme de gestion patrimoniale. Aussi donc on a développé des activités en Nouvelle-Zélande pour permettre en fait à nos investisseurs de faire des placements judicieux dans des endroits où en fait il y a une pression immobilière qui est relativement forte et où ils peuvent faire des plus-values intéressantes.
D'accord. Et du coup l'aventure ne s'arrête pas là. Pour toi, tu poursuis finalement tes investissements? Puisque tu disais, tu trouvais un peu un vrai moyen finalement de placement. Placement pour préparer un peu ta retraite aussi. Et donc, peux-tu nous raconter comment ça s'est fait progressivement et peut-être nous dire un peu tout ce que tu as pu investir aujourd'hui aux États-Unis.
Donc aujourd'hui, en fait, l'immobilier en fait, est une excellente opportunité pour pouvoir avoir des revenus en fait réguliers, ce qui n'est pas le cas en fait des placements financiers en général, soit parce que leur rendement en fait est trop faible, soit pas parce que leur risque est élevé et du coup en fait c'est instable par définition. Alors que l'immobilier en fait est beaucoup plus stable et les lois américaines sont beaucoup plus protectrices vis-à-vis des
propriétaires.
Vis-à-vis des propriétaires. Et puis les taxes aussi sont plus intéressantes en fait qu'en Europe où les taxes sur les...
Tu peux nous dire quelques exemples, par exemple, qu'est-ce qui protège plus un propriétaire qu'en France et au niveau des taxes également, qu'est-ce qui change?
Alors déjà, ce qu'on peut dire en termes de rendement, aujourd'hui, on a beaucoup de clients en fait qui ont des biens en Europe et la rentabilité, notamment en France, du locatif se trouve plus proche de 1,5-2% qu'au-dessus, parce que la somme des taxes en fait est vraiment, vraiment importante, et des charges aussi. Après, en fait, donc il y a beaucoup moins de taxes aux États-Unis, et aussi en fait les en termes de droits de succession, ils sont extrêmement élevés en fait en Europe, et ils sont nuls en fait aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir un patrimoine qui, en termes de succession, restera en fait sans être trop imputé, comme il peut l'être jusqu'à 65% en France aujourd'hui.
Ouais, d'accord. Et aux États-Unis, alors je ne sais pas si c'est le système anglo-saxon qui veut ça, mais je crois qu'en Australie, c'est un peu pareil aussi. C'est-à-dire quand un locataire, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas payer le loyer, il y a tendance en fait à le remplacer plus facilement que en France, où on peut se retrouver avec un locataire pendant des mois qui ne paye pas de loyer et qui on est dans l'impossibilité finalement de retrouver son bien, quoi.
Les anglo-saxons sont très pragmatiques en fait là-dessus. C'est
tu me confirmes,
j'achète un service, j'assume en fait ma responsabilité en fait de disposer d'un appartement, et de mon côté en fait de payer. Si tu payes pas, tu as un premier appel en fait. Il y a des jours, il y a des tranches de jours en fait dans le mois où les paiements doivent être faits avant le 6 du mois. S'ils sont pas faits après le 6 et jusqu'au 15, il y a une pénalité en fait de paiement de retard. Et après le 15, là il y a des rappels qui commencent à se faire. Et si la personne en fait a pas payé à la fin du mois, elle est sortie en fait dès le mois suivant. Et ça, c'est la façon de procéder.
C'est la façon de procéder. Ouais. D'un certain côté, il y a ce stress chez les propriétaires d'avoir un locataire qui paye pas, et souvent ça me fait beaucoup de réticence aux gens pour investir dans l'immobilier, parce que notamment en France il y a des lois qui protègent beaucoup le locataire. Alors c'est très bien pour les locataires, mais ça peut aussi mettre dans le rouge et dans des difficultés profondes des propriétaires qui ne peuvent pas payer un crédit derrière. Donc finalement c'est bien de voir les deux systèmes et de savoir que les deux systèmes existent, quoi.
Ça, donc pour donner un ordre de grandeur à peu près, en France, il existe des assurances qui permettent de couvrir ce risque de ne pas être payé, mais elles s'élèvent en fait à 8% du montant de la location. Donc c'est énorme, ça plombe en fait toute la rentabilité en fait du bien. Donc c'est un vrai risque en fait de faire du locatif en dehors du monde anglo-saxon aujourd'hui, c'est clair.
Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi consiste le métier d'agent immobilier, ta gestion, ton travail au quotidien? Si jamais des jeunes souhaitent s'intéresser à ce métier, c'est histoire d'en parler aussi, pas forcément le côté que investir et préparer sa retraite. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus.
Être agent immobilier en Nouvelle-Calédonie, c'est d'abord d'avoir en fait pignon sur rue, présenter en fait, aller chercher et rechercher en fait l'ensemble des appartements et des maisons qui sont à vendre sur le territoire, les mettre à disposition sur un ou plusieurs sites internet, éventuellement publier cette information dans les journaux, et avoir un réseau de gens qui sont en recherche d'appartements ou qui sont en recherche d'achat, pour pouvoir en fait faciliter le temps de transaction. Passer par particulier à particulier, ça présente en fait quelques contraintes, où d'abord il faut mettre en valeur sa maison, ce qui n'est pas toujours très simple quand c'est pas son métier. La notion de marketing, de marketer en fait la maison, de la mettre en valeur et dans des dispositions, donc, et avec des photos et une certaine mise en scène.
C'est une des facettes de
l'activité. Oui, absolument. De faire des photos de qualité aussi, c'est vraiment important. Trouver le juste prix, pas être dans l'émotionnel du prix, mais d'être dans la réalité du prix du marché, et accompagner en fait les vendeurs et les acheteurs sur la réalité des prix. Ça, c'est un travail qui est vraiment important. Surtout quand les gens vendent leur maison principale, la dimension affect impacte énormément la réalité du prix. Et là, il y a tout un travail à faire pour que les gens puissent vendre leur maison dans de bonnes conditions, mais au juste prix. Très souvent, en fait, c'est survalorisé. Et il y a tout un accompagnement pour leur faire comprendre pourquoi le prix doit être ajusté. Et puis après, il y a toute une dimension juridique avec les notaires et les assureurs et les banquiers ou faire des emprunts, ben, les gens font pas ça tous les jours. Donc passer par une équipe qui a l'habitude de mettre en connexion l'ensemble de ses corps de métier permet d'accélérer, de déstresser et de faire en fait avec succès des opérations qu'on ne fait pas tous les jours en étant correctement accompagné. Donc il y a un véritable accompagnement pour une prise de main et une prise de service qui permet aux gens de le faire dans les meilleures conditions possibles.
D'accord. Mais effectivement, parce que pour quelqu'un qui n'a jamais investi, effectivement, comment ça se passe ? Bah, l'agence immobilière est connectée directement avec le notaire qui, lui, est chargé de rédiger, d'officialiser l'acte de propriété. Hein. Alors, il y a d'abord le passage d'un compromis, d'une pré-vente, hein, on pourrait qualifier ça de ce
terme. C'est ça, il y a un compromis de vente en fait, qui se fait une fois qu'il y a un accord sur le prix et que la qualification de la capacité financière de l'acheteur en fait, à pouvoir avoir un accord de la banque a été réalisée, ce qui ne se fait pas toujours. Donc quand quelqu'un fait la transaction tout seul, il n'a pas forcément en fait, les bonnes questions pour vérifier en fait, que l'acheteur a la véritable crédibilité financière pour pouvoir acheter le bien. Parce qu'il va se passer 3 mois pendant lesquels l'acheteur va faire des démarches auprès de la banque. Ouais. Et si au bout des 3 mois, la banque n'a pas donné en fait, son accord, donc il n'y a pas de prêt, donc c'est une condition suspensive et la vente est annulée. Donc du coup, il faut repartir dans une démarche de vente et on peut perdre en fait, énormément de temps.
Énormément de temps.
Alors que le rôle de l'agent immobilier, c'est de s'assurer en fait, que l'acheteur a toutes les capacités financières qui permettront au maximum, autant que faire se peut, que le notaire, en fait, ouais. Que le banquier donne son autorisation.
D'accord. Donc du coup, avant même, enfin de
avant le compromis,
le process du choix de l'acheteur finalement est aussi important que la suite, que l'ensemble des choses.
Absolument. Et en fait, dès l'offre de prix, on a déjà en fait qualifié la capacité financière de l'investisseur à pouvoir, l'acheteur à pouvoir soit payer en cash, soit faire un prêt, et en fonction de la hauteur de prêt qu'il va avoir, sa capacité à avoir un accord de la banque, de sorte que le compromis soit déjà à peu près sécurisé.
Ouais. Finalement, tout le monde a intérêt à ce que la vente se fasse, disons, du premier coup, parce que le vendeur, lui, il faut qu'il vende, donc s'il attend encore 3 mois et qu'il est pressé pour une raison ou pour une autre, souvent, les gens peuvent être pressés de vendre, hein. Pour l'agence, éviter de lui faire perdre son temps, hein, si je comprends bien, c'est normal. Et pour l'acheteur, effectivement, lui, c'est pareil, éviter qu'il perde son temps s'il n'a pas de possibilité en fait d'aller sur tel ou tel bien, quoi.
C'est ça.
Donc finalement, tout le monde y gagne.
Absolument.
À être synchronisé, je dirais, vraiment en synergie, quoi, dans une opération d'investissement dans l'immobilier. Tu investis encore aux États-Unis, hein, tu as acheté plusieurs biens là-bas et tu as pu développer du coup ton patrimoine comme tu le souhaitais.
C'est ça. Donc en fait, l'idée c'était de faire une migration progressive en fait de mes assurances vie dans l'immobilier. Et aujourd'hui, en fait, ça permet de financer les études de mes enfants qui sont au Canada. Et c'est, ça m'évite en fait d'avoir du coup couvrir cette charge. Et demain, ce revenu sera en fait la possibilité pour, lorsque je m'arrêterai de travailler, de pouvoir avoir un rendement régulier.
Est-ce que tu peux nous dire ce que ton métier en fait d'agent immobilier t'a apporté dans ton parcours d'investisseur ? C'est une question que je pose souvent. Selon les métiers, ça peut changer. Est-ce que tu as apporté une vision différente, un complément ? Forcément, tu es rentré en plein milieu, je dirais, du secteur de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous partager un peu ça ?
En fait, ce qui est vraiment important, c'est de réaliser que l'immobilier, en termes de finances, joue en fait un rôle vraiment prépondérant dans l'économie. Donc, tout le monde sait que lorsque le bâtiment ne se porte pas bien, l'économie ne se porte pas très bien. Mais comprendre en fait les rouages de l'immobilier est vraiment intéressant, et comment entre une maison qui se libère décider en fait si cette maison doit rester, si elle doit faire l'objet en fait d'une promotion, d'une construction, d'une reconstruction, ou comment en fait on peut fusionner des terrains pour faire une promotion en fait plus large, quel modèle financier en fait vendre, quel type de biens seront en fait attendu par le marché. Donc c'est des choses qui sont vraiment intéressantes en fait à découvrir, et pour réaliser en fait qu'on est dans un monde où la croissance de la population est une garantie que les placements en fait dans l'immobilier sont de bons placements. Ça draine beaucoup d'activités et c'est clairement en fait une bonne façon en fait de placer son argent.
C'est d'ailleurs l'immobilier un des points communs, je dirais, à tous les gens qui essayent. Enfin, tous les gens que j'ai pu rencontrer qui essayent de développer leur patrimoine et de pouvoir transmettre quelque chose à leurs enfants. L'immobilier, c'est vrai que ça revient souvent, extrêmement souvent.
En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est assez marrant, ça se voit aux États-Unis. La jeune génération investit en fait de moins en moins dans une résidence principale pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ne veulent pas se mettre un fil à la patte. Ils sont mobiles et ils veulent rester en fait mobiles.
Ouais, c'est vrai,
et qu'aujourd'hui, tout s'achète comme un service. Un appartement, une voiture ou l'informatique, aujourd'hui tout s'achète en fait comme un service et on n'a plus besoin, on ressent plus le besoin de posséder quelque chose. Le fait de louer, les voitures dans les grandes villes se louent, les vélos dans les grandes villes se louent, et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans un phénomène où les choses s'achètent sous forme de service. Et ce que ça change vis-à-vis de l'immobilier, c'est que investir dans l'immobilier est une bonne chose, mais pas nécessairement dans sa maison principale. Le fait d'avoir un patrimoine qui rapporte un revenu régulier permet aussi en fait d'utiliser ce revenu pour louer et se sentir en fait libre de pouvoir déménager à droite ou à gauche sans avoir à dire ah mais j'ai ma maison principale et du coup je suis figé quelque part.
Tout à fait. Finalement, ce que tu essayes un peu de nous partager, c'est tu peux très bien rester locataire avec une flexibilité, une mobilité parfaite, je dirais. Et investir dans l'immobilier locatif.
C'est ça.
Finalement, l'intérêt, c'est bien de faire travailler ton investissement pour toi et d'amortir un capital pour tes vieux jours, ta retraite et peut-être, pourquoi pas, le revendre quelques années après pour réinvestir avec ce capital.
Voilà, donc l'idée, c'est plutôt que de louer à perte. Si on n'a pas en fait de revenus en fait à côté, c'est d'utiliser en fait les revenus de notre patrimoine immobilier pour avoir une somme nulle, c'est-à-dire que louer ne me coûte rien du tout, je ne perds pas d'argent en fait quand je loue. Alors que quelqu'un qui n'a pas de revenus immobiliers perd en fait chaque mois le montant qu'il investit dans son loyer.
Et ouais, tu veux dire que finalement avec ce qui ressort en plus, ton cash flow positif finalement de tes opérations immobilières, ça peut participer à payer ton loyer, quoi.
C'est exactement ça.
Donc ça devient effectivement très intéressant.
Ouais.
Parce que finalement, tu récoltes les fruits à l'instant présent, je dirais, et pas dans 20 ans quand ton immobilier est payé.
C'est exactement ça.
Donc ça, c'est plutôt pas mal, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être brièvement pour les gens de métropole ou d'extérieur à la Nouvelle-Calédonie qui écoutent ce podcast, comment tu qualifierais le marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie par rapport à peut-être un autre marché que tu connais? Alors bien sûr, tu nous as parlé des États-Unis, tu nous en as déjà parlé, l'Australie ou l'Europe ou la métropole.
En fait, le marché de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie est comparable à celui de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et de la France, ou de l'Europe en général. Les prix sont quand même assez élevés.
D'accord.
Contrairement aux États-Unis. Le ticket d'entrée est quand même très élevé. Aujourd'hui, entre acheter à Phoenix ou acheter à Nouméa ou en France, on a un facteur pour le même type d'appartement 4 fois plus élevé. Donc dans un cas, en fait, je suis obligé de mobiliser en fait, à peu près 30 millions pour de francs CFP ou bien 250 000 euros pour pouvoir investir dans un appartement. Et pour une somme 4 fois moins, je peux avoir en fait 4 appartements aux États-Unis. Donc l'idée, c'est aussi de permettre une plus grande flexibilité de son patrimoine, ou si j'ai besoin en fait d'avoir des liquidités à un instant T, je peux lâcher un appartement sans avoir en fait à lâcher pour une somme relativement proche de ce dont j'ai besoin, plutôt que d'être coincé avec un appartement d'une grosse somme Et le fait de le vendre, en fait, est vraiment dommageable.
Ça, c'est bien l'avantage, en fait, des deux systèmes. Hein,
c'est ça.
Mais est-ce qu'il y a quand même un marché qui est dynamique, malgré ces prix forts ici, par rapport à, comme vous parliez de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou de l'Europe, il y a beaucoup de transactions, d'achats de vente.
Oui, le marché est assez stable.
Au final, alors,
il y a eu une très forte poussée, en fait, de l'immobilier pendant les 10 années, en fait, de construction de l'usine du Nord et de l'usine du Sud en Nouvelle-Calédonie.
D'accord.
Où il y a eu des milliards de dollars qui ont été investis dans ces deux projets. Et bien entendu, en fait, ça a eu un impact décisif sur la croissance de l'immobilier et dans le Sud et dans le Nord. Maintenant, en fait, que ces projets sont en opération, donc sont stabilisés, sont fonctionnels et sont en opération, la pression sur l'immobilier, sur la demande de l'immobilier, en fait, a diminué, et on rentre dans une économie beaucoup plus normale.
Un peu stable, stabilisée.
Voilà, elle était, en fait, anormale pendant la période de construction.
D'accord.
Donc là, on est en train de revenir, en fait, sur un modèle économique plus standard. Donc on a un nombre de transactions qui est normal par rapport à ce qu'on peut avoir pour une population comme celle qu'on a.
D'accord. Mais concrètement, est-ce qu'on peut trouver une bonne affaire encore aujourd'hui à Nouméa?
Ah oui.
Quelqu'un qui souhaite investir, pas aux États-Unis parce que peut-être ça lui fait peur, ou l'Australie parce que peut-être qu'il n'a jamais voyagé, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un jeune, par exemple, qui souhaiterait investir, est-ce qu'il peut toujours aussi trouver une bonne affaire à Nouméa ou sur le territoire?
Alors, en fait, faire une vraie bonne affaire dans l'immobilier, c'est principalement pour des gens qui ont la capacité, en fait, de faire des travaux. Les gens qui savent bricoler sont en capacité, en fait, de se créer un patrimoine dans de très bonnes conditions. Dès l'instant où on peut acheter, en fait, un bien qui est en piteux état, de lui redonner, en fait, vie avec cachet et avec goût, on peut faire des plus-values, en fait, très substantielles. Ça, c'est des opportunités qui existent en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, et qui sont, en fait, un peu réservées aux gens qui aiment et qui ont ce goût, en fait, de faire des travaux. Après, pour les autres, le marché calédonien n'a rien de différent, en fait, des autres marchés. Il y a des gens qui ont besoin de vendre très vite et qui, du coup, en fait, sont prêts à baisser les prix. Et ça peut être une opportunité, mais ce n'est pas propre à la Calédonie. Ou sinon, en fait, le marché est un marché assez juste, et l'offre et la demande sont de toute façon cadrées, notamment avec les prêts bancaires, où les banquiers, en fait, s'assurent toujours que le prix de vente et celui qu'ils ont à couvrir correspond, en fait, à un juste prix.
D'accord. Ok, super. Merci pour ces petits conseils. Du coup, l'idée, en fait, des travaux, tu disais, c'est d'acheter, disons, un prix faible vu l'état du bien, le rénover à coût maîtrisé, finalement, parce que les gens, tu disais, soit ils peuvent faire les travaux eux-mêmes, ou à appeler des artisans. Hein. C'est un peu les deux écoles, je dirais.
Ouais, mais dès l'instant où on commence à déléguer, en fait, les travaux, la note augmente beaucoup plus vite, puisqu'ils sont là pour faire de la marge et se faire leur salaire. Si, par contre, on investit physiquement, personnellement, dans la réalisation de ces travaux, donc bien entendu à moindre coût, là, ça permet de dégager des très grosses plus-values. Et en Australie, il y a des gens qui en font leur métier.
D'accord.
Ils achètent des maisons en piteux état, ils les reconstruisent, ils en font entre une et quatre par an, et ils vivent très, très confortablement.
D'accord. Ok, super. Écoute, je te propose de passer un peu aux trois questions maintenant que je pose à chaque fois à tous les gens qui sont interviewés derrière ce micro du podcast. Est-ce que tu peux nous citer une référence? Ça peut être un livre, un site internet, une personne, n'importe quoi, en fait, qui t'a inspiré et qui t'a orienté un peu vers l'investissement immobilier, ou qui t'a fait ce déclic. Voilà, est-ce que tu peux nous...
Oui, moi j'ai tardé, en fait, à investir dans l'immobilier, et dans ma famille, autour de moi, en fait, j'ai des gens qui ont investi, en fait, très tôt dans l'immobilier, et ça fait une très grosse différence. Donc ceux qui m'ont inspiré, c'est ceux qui ont été les premiers très tôt, en fait, dans leur vie, à acheter des appartements de moindre importance à des coûts relativement bas, parce que c'était en fonction de leur revenu de jeunes professionnels, mais qui progressivement, les années passant, se sont révélés, en fait, de très bons investissements, et surtout la possibilité de revendre, de racheter et de faire croître, en fait, un patrimoine sans perdre l'argent, en fait, dans des loyers.
D'accord. Finalement, c'est ta propre famille, finalement, qui t'a donné cette petite puce à l'oreille à la base, quoi.
Oui, puis en regardant le marché, on s'aperçoit bien que c'est pas dans les assurances vie qu'on peut vivre, qu'on peut faire des placements judicieux, c'est sûr.
Effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on n'a pas parlé du levier bancaire, parce que même si on n'a pas d'apport aujourd'hui, on peut très bien investir dans l'immobilier en empruntant la totalité ou quasiment la totalité du bien pour le louer. Et toi, c'est pas la façon que t'as procédé, puisque tu avais un apport à la base avec toutes tes années d'épargne, hein, dont tu as bien parlé à juste titre au début du podcast, qui t'a permis d'investir en cash.
C'est ça.
Finalement.
C'est ça.
Et donc finalement, ton rendement, tu l'as eu en totalité dès le départ.
C'est ça. Et par contre, en fait, nous, dans le cadre d'Imo IPS, en fait, on accompagne nos investisseurs pour leur permettre en fait d'obtenir des prêts à des taux plutôt intéressants, aux alentours de 2,5, ce qui leur permet en fait de pouvoir investir dans l'immobilier. Aux États-Unis notamment, avec donc un retour sur investissement très intéressant, puisque tu as 8%. Donc le différentiel entre l'emprunt qu'ils ont réalisé et la rentabilité de leur appartement leur permet en fait d'avoir une augmentation de leur capital en fait sans souci dès l'instant où ils ont la possibilité d'hypothéquer un bien localement pour obtenir cet emprunt.
Ok, super. Ça, c'est des partenariats que vous avez fait avec des banques locales, ouais, en Nouvelle-Calédonie.
C'est ça.
Merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous citer un proverbe ou une phrase inspirante qui te plaît ?
Alors, par rapport à quoi ? Par rapport à la vie en général, c'est « suis ton rêve ».
Ok. Clairement. On va en dire plusieurs aussi.
Clairement. Et puis, par rapport à l'immobilier, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours réaliser, enfin, avoir la capacité d'anticiper et de voir un petit peu comment demain sera fait et de construire sa vie et son chemin progressivement en pensant à demain.
Super, excellent. Bah, du coup, je vois dans tes citations un peu les deux côtés. Côté rêveur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui aspire à voir grand finalement, qui essaie d'arriver à concrétiser ce qu'il a envie sans savoir trop au départ comment faire. Et le côté un peu rationnel, c'est comment je fais étape par étape peut-être pour y arriver, hein. C'est un peu ça.
Ouais, absolument, c'est très très bien.
J'ai envie de dire, c'est vraiment très complet ce que tu dis, mais si on peut donner un conseil là-dessus pour les auditeurs, c'est, je pense, les deux côtés qu'il faut avoir pour avancer. Et quand on a ces deux côtés, il y a finalement pas grand-chose qui peut nous arrêter finalement.
Ah bah, suivre son rêve et se donner les moyens de suivre son rêve, c'est à mon sens en fait le vrai sens de la vie. C'est savoir ce qu'on veut faire et se donner les moyens de le réaliser, que ce soit utopique ou pas. Ce qui est important en fait, c'est de se donner les moyens de pouvoir faire des choses qu'on aime faire. Et si on se donne les moyens de faire des choses qu'on aime faire, on sera forcément bon et ça se passera forcément bien.
Super. Du coup, qu'est-ce que tu dirais en dernière question ? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune Calédonien ou une personne qui souhaite investir dans l'immobilier ou peut-être qui souhaite acheter sa maison pour y habiter, donc il y a un peu les deux côtés, mais qui ne souhaite pas se lancer pour un certain nombre de raisons ? Ça peut être la peur de l'investissement ou... qu'est-ce que tu pourrais lui dire en fait pour le conseiller ?
Dès l'instant où la personne en fait a un job stable, je l'encouragerais en fait à investir le plus tôt possible. D'abord dans un bien personnel pour éviter en fait de payer des loyers, et puis après une fois que ce premier bien en fait est remboursé, éventuellement soit louer et déménager ailleurs, mais être dans une logique d'épargne immobilière plutôt que dans une logique d'épargne financière avec des potentiels de rentabilité beaucoup plus beaucoup moins clairs.
Donc finalement, c'est passer à l'action maintenant et pas dans quelques années dès lors qu'on a une situation
qui le permet. Il n'est jamais trop tard pour investir dans l'immobilier, clairement.
Et en plus, il n'est jamais trop tard, effectivement. Mmh. Aujourd'hui, qu'on ait 40, 50 ou 60 ans, on peut très bien avoir un crédit pour un investissement immobilier.
Absolument. Après, ce qu'il faut, c'est s'assurer que les conditions financières proposées sont les bonnes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le prix de l'argent aujourd'hui, s'il y a des années où il faut investir, c'est bien maintenant, parce que le prix de l'argent est très très bas.
C'est bien ça. Bah, écoute, je te propose de terminer notre échange là-dessus. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Est-ce que, avant de terminer cet épisode, tu peux nous dire un peu où est-ce que les gens peuvent te trouver, tes contacts, tes coordonnées, un site internet, également pour IMO IPS?
Donc, mon adresse mail, c'est bertrand@imoips.nc. Mais pour pouvoir savoir ce qui se passe chez nous, on a une page Facebook qui s'appelle IMO IPSNC et un site internet qui s'appelle www.imoips.nc.
Tu peux nous donner peut-être un numéro de téléphone ? Je ne sais pas si les gens souhaitent te contacter.
Oui, donc localement, en fait, c'est le 44 90 48.
Ok, super. Donc, pour les auditeurs, si vous souhaitez investir aux États-Unis dans des conditions vraiment qui sont, je dirais, le top, puisqu'il y a des gens sur place et tout est très, très transparent à ce que j'ai pu voir, vous pouvez aller découvrir cette offre IMO IPS. Également, les offres qu'il y a si vous souhaitez investir à Nouméa ou sur le territoire. On n'en a pas parlé, mais vous agissez aussi en Nouvelle-Zélande. Donc j'annonce également qu'on les prochains épisodes du podcast, donc l'un des prochains épisodes du podcast sera consacré à l'interview de Élie Mougel, qui est le fondateur du groupe Mougel, qui associe, donc qui intègre l'agence IMO IPS, et il va nous expliquer exactement ce qui est proposé en fait en Nouvelle-Zélande, avec un système qu'on pourrait comparer un peu au SCPI qu'on connaît nous notamment en métropole ou même ici, les fameuses sociétés de placement immobilier où on achète une part d'immobilier, pas un bien entier, et qui permet finalement, un peu comme un placement financier, d'avoir une rentabilité intéressante.
C'est exactement ça, très intéressant. C'est une bonne façon d'acquérir de l'immobilier pour demain, progressivement.
Et également, tout ce qui concerne la construction neuve en Nouvelle-Zélande, donc patrimoniale, avec des très très beaux projets, ce que j'ai pu voir. Donc Élie Mougel pourra nous en dire plus sur tout ce qui est les projets sur du côté du Queenstown. Et du côté du lac Taupo, c'est ça, le lac Taupo, où vraiment c'est des endroits avec un cadre exceptionnel, je dirais, pour les vacances déjà, pour ceux qui veulent visiter, c'est top. Et effectivement, pour une résidence secondaire ou tout projet qu'on pourrait même investir, puisque la demande apparemment est croissante également, c'est intéressant d'avoir ce côté-là aussi.
C'est ça.
On pourra en parler. Écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que tu voulais me partager quelque chose d'autre?
Aujourd'hui, accéder à l'immobilier reste encore un petit peu limité à tout le monde. On est en train de développer de nouveaux produits qui permettront en fait de créer en fait une épargne de 350 000 francs CFP, donc à peu près 3 000 euros par part, et qui permet d'avoir une rentabilité de l'ordre de 5%. Et là, c'est une très bonne façon en fait de mettre le pied à l'étrier progressivement pour pouvoir en fait acquérir de l'immobilier à moindre coût et à moindre risque.
Ok, super. Je vous dis à très très bientôt pour découvrir ces côtés investissement en Nouvelle-Zélande grâce à l'activité de l'IMO IPS. Et merci beaucoup à toi, Bertrand, pour tes conseils, ton temps que tu as pu nous consacrer, le partage de ton expérience personnelle, qui sont très très enrichissantes, et j'espère pouvoir inspirer les auditeurs qui nous écoutent dans leur propre parcours.
Super.
Merci beaucoup et peut-être à bientôt.
Merci, au revoir.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao !